Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mise en Page avec au programme aujourd'hui Marguerite Duras et un de ses derniers écrits qui s'intitule Écrire. Écrire en fait est un rendez-vous qu'elle avait donné à Benoît Jacquot, le cinéaste, qui avait envie de faire un film avec elle. Et c'est dans la maison de Neuf-le-Château qu'ils se sont donné rendez-vous et qu'elle s'est livrée, Duras, à un très long entretien avec un sujet, le fait d'écrire. Qu'est-ce que c'est qu'écrire ? Le livre que j'ai entre mes mains ici, publié chez Gallimard, en fait, retrace cet entretien, tout simplement. Et c'est avec un grand naturel que cette transcription va être faite. Le livre date de 1993. Exactement, Marguerite Duras est déjà âgée, déjà malade, et elle va se livrer comme ça à cette confession, j'allais dire, mais c'est pas le terme approprié pour Duras, mais à ses pensées personnelles, intimes, sur le fait d'écrire. Le livre débute ainsi, je dédie ce livre à la mémoire de... W.G. Clive, mort à 20 ans, à Vauville, en mai 1944, à une heure restée indéterminée. C'est dans une maison qu'on est seul, et pas au dehors d'elle, mais au dedans d'elle. Dans le parc, il y a des oiseaux, des chats, mais aussi, une fois, un écureuil, un furet. On n'est pas seul dans un parc, mais dans la maison, on est si seul qu'on en est égaré quelquefois. C'est maintenant que je sais y être resté 10 ans, seul. Et pour écrire des livres qui m'ont fait savoir, à moi et aux autres, que j'étais l'écrivain que je suis. Comment est-ce que ça s'est passé? Et comment peut-on le dire? Ce que je peux dire, c'est que la sorte de solitude de Neufle a été faite pour moi. Par moi. Et que c'est seulement dans cette maison que je suis seul pour écrire. Pour écrire pas comme je l'avais fait jusque-là, mais écrire des livres encore inconnus de moi. Et jamais encore décidés par moi, et jamais décidés par personne. Là, j'ai écrit le ravissement de l'Olvestein et le vice-consul. Puis d'autres après cela. J'ai compris que j'étais une personne seule avec mon écriture. Seul, très loin de tout. Ça a duré 10 ans, peut-être. Je ne sais plus. J'ai rarement compté le temps passé à écrire, ni le temps tout court. J'ai compté le temps passé à attendre Robert Antelme et Marie-Louise, sa jeune sœur. Après, je n'ai plus rien compté.
Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits. Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleil, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons. Et dans ce pays-là, moi je fais ma maison. Ma maison est un bois, mais c'est presque un jardin qui danse au crépuscule autour d'un feu qui chante, où les fleurs se mirent dans un lac sans teint et leurs images en baume aux brises frissonnantes, aussi folle que l'aube, aussi belle que l'ambre. Dans cette maison-là, j'ai installé ma chambre. Ma chambre est une église, et je suis à la fois, si je vante un instant, ce monument étrange. Et le prêtre, et le dieu, et le doute, et la foi, et l'amour, et la femme, et le démon, et l'ange. Au ciel de mon église brûle un soleil de nuit. Dans cette chambre-là, j'ai couché mon lit. Mon lit est une arène où l'on mène un combat sans merci, sans repos, je repars, tu reviens. Une arène où l'on meurt aussi souvent que ça, mais où l'on vit pourtant sans penser à demain, où les grandes fatigues chantent quand je m'endors. Je sais que dans ce lit, j'ai ma vie, j'ai ma mort. Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits. Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleil, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons, mais moi dans ce pays, j'y ai fait ta maison. je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits. Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleils, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons. Et dans ce pays-là, moi je fais ma maison. Ma maison est un bois, mais c'est presque un jardin qui danse au crépuscule autour d'un feu qui chante, où les fleurs se mirent dans un lac sans teint et leurs images en bombe aux brises frissonnantes, aussi folles que l'aube, aussi belles que l'ambre. Dans cette maison-là, j'ai installé ma chambre. Ma chambre est une église et je suis à la fois, si je vante un instant, ce monument étrange. Et le prêtre et le dieu et le doute et la foi et l'amour et la femme et le démon et l'ange. Au ciel de mon église brûle un soleil de nuit. Dans cette chambre-là, j'ai couché mon lit. Mon lit est une arène où l'on mène un combat sans merci, sans repos. Je repars, tu reviens. Une arène où l'on meurt aussi souvent que ça, mais où l'on vit pourtant sans penser à demain. Où les grandes fatigues chantent quand je m'endors. Je sais que dans ce lit, j'ai ma vie, j'ai ma mort. Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits. Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleils, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons, mais moi dans ce pays, j'y ai fait ta maison.
Écrire Marguerite Duras dans Mise en page aujourd'hui avec ses sentiments sur l'écriture et cette justification de l'écriture, cette explication de l'écriture. Le ravissement de l'Helvestein et le vice-consul, je les ai écrits là-haut, dans ma chambre, celle aux armoires bleues, hélas maintenant détruite par des jeunes maçons. Quelquefois j'écrivais aussi ici, à cette table-là du salon. Cette solitude des premiers livres, je l'ai gardée. Je l'ai emmenée avec moi. Mon écriture, je l'ai toujours emmenée avec moi, où que j'aille, à Paris, à Trouville ou à New York. C'est à Trouville que j'ai arrêté, dans la folie de devenir de Lola Valérie Stein. C'est aussi à Trouville que le nom de Jan Andrea Steiner m'est apparu avec une inoubliable évidence, il y a un an. La solitude de l'écriture, c'est une solitude sans quoi l'écrit ne se produit pas, où il s'émiette, exsangue, de chercher quoi écrire encore. Père, son sang, il n'est plus reconnu par l'auteur. Et avant tout, il faut que jamais il ne soit dicté à quelque secrétaire, si habile qu'elle soit, et jamais à ce stade-là donné à lire à un éditeur. Il faut toujours une séparation avec les autres gens autour de la personne qui écrit des livres. C'est une solitude, c'est la solitude de l'auteur, celle de l'écrit. Pour débuter la chose, on se demande ce que c'était ce silence autour de soi. Et pratiquement à chaque pas que l'on fait dans une maison et à toutes les heures de la journée, dans toutes les lumières, qu'elles soient du dehors ou les lampes allumées dans le jour, cette solitude réelle du corps devient celle inviolable de l'esprit.
J'avoue, les pieds dans l'eau. la vie est belle. Ainsi soit-elle. Un été sur la côte, toujours là. Années 30, un été sur la côte, un voilier, mer Mayotte, la mer, son onde lancinante. Un baiser sur le sable et l'amour indicible. Certes périssable, puisqu'il décide d'oublier les orages, de rejouer la belle. Et même si c'est dommage, ainsi soit-elle. La vie est belle. Sur la côte, toujours là, près de l'autre, un air. Des années 30, un été. Sur la côte, un voilier, même un yacht, la mer, son nom de lancinant.
Écrire, c'était ça la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait. Je l'ai fait. L'écriture ne m'a jamais quitté. Ma chambre, ce n'est pas un lit, ni ici, ni à Paris, ni à Trouville. C'est une certaine fenêtre, une certaine table, des habitudes d'encre noire, de marques d'encre noire, introuvables. C'est une certaine chaise et certaines habitudes que je retrouve toujours où que j'aille, où que je sois, dans les lieux mêmes où je n'écris pas, comme les chambres d'hôtel par exemple, l'habitude d'avoir toujours du whisky dans ma valise, dans le cas d'insomnie ou de désespoir subi. Pendant cette période-là, j'ai eu des amants. Je suis resté rarement sans du tout d'amants. Ils se faisaient à la solitude de Neufle. Et à son charme, elle leur a permis quelquefois, à leur tour, d'écrire des livres. Rarement à ses amants, je donnais mes livres à lire. Aux amants, les femmes ne doivent pas faire lire les livres qu'elles font. Quand je venais de terminer un chapitre, je le leur cachais. La chose est si vraie, quant à moi, que je me demande comment on fait d'ailleurs ou autrement quand on est une femme et qu'on a un mari ou un amant. On doit aussi, dans ce cas, cacher aux amants l'amour de son mari. Le mien n'a jamais été remplacé. Chaque jour de ma vie, je le sais. Cette maison, c'est le lieu de la solitude. Pourtant, elle donne sur une rue, sur une place, sur un très vieil étang, sur le groupe scolaire du village. Quand l'étang est glacé, il y a des enfants qui viennent patiner et qui m'empêchent de travailler. Je les laisse faire, ces enfants, je les surveille. Toutes les femmes qui ont eu des enfants surveillent ces enfants-là, désobéissants, fous, comme tous les enfants. Mais quelle peur chaque fois, la pire, et quel amour. On ne trouve pas la solitude, on l'a fait. La solitude, elle se fait seule. Je l'ai faite, parce que j'ai décidé que c'était là que je devrais être seule. que je serai seul pour écrire les livres. Ça s'est passé ainsi, j'ai été seul dans cette maison. Je m'y suis enfermé. J'avais peur aussi, bien sûr. Et puis je l'ai aimé. Cette maison, elle est devenue celle de l'écriture. Mes livres sortent de cette maison, de cette lumière aussi, du parc, de cette lumière réverbérée de l'étang. Il m'a fallu 20 ans pour écrire ça que je viens de dire là. On peut marcher dans cette maison dans toute sa longueur. Oui. On peut aussi y aller et venir. Et puis, il y a le parc. Là, il y a les arbres millénaires et les arbres encore jeunes. Il y a des mélèzes, des pommiers, un noyer, des pruniers, un cerisier. L'abricotier est mort. Devant ma chambre, il y a ce rosier fabuleux de l'homme atlantique, un saule. Il y a aussi les cerisiers du Japon, les iris. Et sous une fenêtre du salon de musique, il y a un camélia planté pour moi par Dionis Mascolo. J'ai d'abord meublé cette maison, et puis je l'ai fait repeindre. Et puis, c'est 2 ans après, peut-être, que ma vie avec elle a commencé. J'ai fini l'Olvestein ici. J'ai écrit la fin ici et à Trouville, devant la mer. Seul, non, je n'étais pas seul. Il y avait un homme avec moi pendant cette époque-là. Mais on ne se parlait pas. Comme j'écrivais, il fallait éviter de parler des livres. Les hommes ne le supportent pas, une femme qui écrit. C'est cruel pour l'homme. C'est difficile pour tous, sauf pour Robert Anthelme. À Trouville, pourtant, il y avait la plage, la mer, les immensités de ciel, le sable. Et c'était ça, ici, la solitude. C'est à Trouville que j'ai regardé la mer, jusqu'au rien. Trouville, c'est une solitude de ma vie entière. J'ai encore cette solitude-là, imprenable autour de moi. Des fois, je ferme les portes, je coupe le téléphone, je coupe ma voix. Je ne veux plus rien. Je peux dire ce que je veux, je ne trouverai jamais pourquoi on écrit et comment on n'écrit pas.
De ce désir mort.
chanson. Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me
Marguerite Duras, aujourd'hui dans Mise en page avec Écrire, un des derniers livres de Duras, une sorte d'entretien avec Benoît Jacquot, qui a voulu en faire un film. Il l'a filmé donc à Neufle-le-Château, devant son piano, dans sa maison, cette maison de Neufle où elle a beaucoup écrit. Elle évoque l'écriture, elle évoque le pourquoi de l'écriture, les incompréhensions de l'écriture, la solitude aussi, sa maison, son rapport aux choses, aux objets, aux abris, et toute une vie d'écriture sur laquelle elle revient dans ce livre Écrire, publié en 93 chez Gallimard, et que nous poursuivons. Quelquefois, quand je suis seul ici à Neufle, je reconnais des objets comme un radiateur. Je me souviens qu'il y avait une grande planche sur le radiateur et que j'étais souvent assise là, sur cette planche, pour voir passer les autos. Ici, quand je suis seul, je ne joue pas du piano. Je joue pas mal, mais je joue très peu parce que je crois que je ne peux pas jouer quand je suis seul, quand il n'y a personne d'autre que moi dans la maison. C'est très difficile à supporter, parce que ça paraît avoir un sens tout à coup. Or, il n'y a que l'écriture qui a un sens dans certains cas personnels, puisque je la manie, je la pratique. Tandis que le piano est un objet lointain encore, inaccessible, et pour moi, toujours tel. Je crois que si j'avais joué du piano en professionnel, je n'aurais pas écrit de livre. Mais je n'en suis pas sûr. Je crois aussi que c'est faux. Je crois que j'aurais écrit des livres, dans tous les cas, même dans ce cas de la musique parallèle. Des livres invisibles, entiers cependant, aussi loin de toute parole que l'inconnu d'un amour sans objet, comme celui du Christ ou de Bach. Tous les deux d'une vertigineuse équivalence. La solitude, ça veut dire aussi ou la mort, ou le livre. Mais avant tout, ça veut dire l'alcool. Whisky, ça veut dire. Ce n'est jamais plus jusqu'ici. Même jamais vraiment, ou alors il faudrait que je cherche loin. Je n'ai jamais pu commencer un livre sans le terminer. Je n'ai jamais fait le livre qui ne soit pas déjà une raison d'être tandis qu'il est écrit. Et ça, quel que soit le livre, et partout, dans toutes les saisons. Cette passion, je l'ai découverte ici, dans les Yvelines, dans cette maison, ici. J'avais enfin une maison où me cacher pour écrire des livres. Je voulais vivre dans cette maison. Pourquoi y faire? Ça a commencé comme ça, comme une blague. Peut-être écrire. Je me suis dit, je pourrais. J'avais déjà commencé des livres que j'avais abandonnés. J'avais oublié même les titres. Le vice-consul, non. Je ne l'ai jamais abandonné. J'y pense souvent. À l'Alvestein, je n'y pense plus. Personne ne peut la connaître, l'Alvestein. Ni vous, ni moi. Et même ce que Lacan en a dit, je ne l'ai jamais tout à fait compris. J'étais abasourdi par Lacan. Et cette phrase de lui, elle ne doit pas savoir qu'elle écrit ce qu'elle écrit parce qu'elle se perdrait et ce serait la catastrophe. C'est devenu pour moi, cette phrase, comme une sorte d'identité de principe, d'un droit de dire totalement ignoré des femmes. Se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Être sans sujet aucun de livre, sans aucune idée de livre, c'est se retrouver devant un livre, une immensité vide, un livre éventuel, devant rien, devant une écriture vivante et nue, comme terrible, terrible à surmonter. Je crois que la personne qui écrit est sans idée de livre, qu'elle a les mains vides, la tête vide. et qu'elle ne connaît de cette aventure du livre que l'écriture sèche et nue, sans avenir, sans écho, lointaine avec ses règles d'or élémentaires, l'orthographe, le sens. Le vice-consul, c'est un livre que partout on a crié sans voix. Je n'aime pas cette expression, mais quand je relis le livre, je retrouve ça, quelque chose comme ça. C'est vrai, il hurlait chaque jour le vice-consul. Mais d'un lieu pour moi secret, comme chaque jour on prie, lui il hurlait. C'est vrai ça. Il criait fort, et dans les nuits de Lahore, il tirait sur les jardins de Shalimar pour tuer, n'importe qui, mais tuer. Il tuait pour tuer. Du moment que n'importe qui, c'était l'Inde entière, en état de décomposition. Il hurlait chez lui, à la résidence, et quand il était seul dans la nuit noire de Calcutta désert. Il est fou, fou d'intelligence, le vice-consul. Il tue Lahore toutes les nuits. Je ne l'ai jamais retrouvé d'ailleurs. Je ne l'ai retrouvé que dans l'acteur qu'il a joué, mon ami, le génial Michael Lonsdal. Même dans ses autres rôles, pour moi, il est encore le vice-consul de France de Lahore. Il est mon ami, mon frère. Le vice-consul, c'est celui en qui je crois. Le cri du vice-consul. La seule politique. Il a aussi été enregistré ici à Neuf-le-Château. C'est ici qu'il m'a appelé. Elle, ici, oui. Elle, Anna Maria Guardi. C'était elle, Delphine Sierig. Et tous les gens du film pleuraient. C'était des pleurs libres, sans connaissance du sens qu'ils avaient. Inévitable, les vrais pleurs. Ceux des peuples de la misère.
Prenez une page blanche et dessinez un être, un homme, une femme, un ange, un voleur ou un prêtre, et donnez-lui la main, qu'il ne reste pas seul pour tracer son chemin des langes au linceul. Prenez une page blanche et dessinez un être en habit du dimanche, en clown, en roi peut-être, et donnez-lui la main pour n'en pas faire un fou. Songez que cet humain, ce pourrait être vous, et peignez son enfance de grands rires qui éclatent, des cerfs-volants qui dansent, des trésors de pirates, et donnez-lui du pain, celui des gens modestes, qu'il apprenne à dompter sa faim quand la vie devient peste. Prenez une page blanche et dessinez un être, que sa beauté soit franche et pas que du paraître. Non, donnez-lui du cœur et l'envie de tenter, que vaincu ou vainqueur, il ne cesse de chanter. Prenez une page blanche et dessinez un être, une danseuse, un comanche, un amoureux des lettres. Oui, donnez-lui des mots et puis des choses à dire, des bouquets d'idéaux, tout un monde à bâtir. Peignez l'adolescence avec ses grands frissons, ses flirts, ses romances, ses appels d'horizon. Et donnez-lui des larmes, celles qu'on verse à 20 ans, car nulle beauté n'a plus de charme pour payer nos printemps. Prenez une page blanche et dessinez un être, et si sa maison penche, ouvrez grand ses fenêtres, et donnez-lui l'espace avec des champs de roses, qu'il apprenne à trouver sa place dans la beauté des choses. Prenez une grande page pour offrir à cet être des amis, des voyages, du ciel, des feux, des fêtes. Donnez-lui l'amour sans frontières et sans trêve, qu'il en fasse l'écrin de ses jours et l'éclat de ses rêves. Sur cette page moins blanche, dessiner l'âge adulte, mais sans que son cœur flanche, au contraire qu'il exulte, oui, donnez-lui la force de hisser haut ses voiles, à l'heure triste où l'on rentre au port, qu'il s'accroche aux étoiles. Prenez une page blanche, mais ne soyez pas traître, ne la laissez pas blanche, peignez-y tout votre être et donnez-lui vos heures, qu'il apprenne à briller pour dissoudre dans ses couleurs les grains du sablier. Et peignez la vieillesse avec ses cheveux blancs, ce blanc que la page laisse à l'homme au fil des ans. Et donnez-lui la main pour entrer dans sa gloire, quand la page au bout du chemin devient notre mémoire. Tuez la page blanche pour peindre un grand tableau, tuez la page blanche pour écrire un grand livre, tuez la page blanche pour montrer tout le beau, tuez la page blanche pour dire on a su vivre.
Marguerite Duras, écrire. Dans la vie, il arrive un moment, et je pense que c'est fatal, auquel on ne peut pas échapper, où tout est mis en doute. Le mariage, les amis, surtout les amis du couple. Pas l'enfant, l'enfant n'est jamais mis en doute. Et ce doute grandit autour de soi. Ce doute, il est seul. Il est celui de la solitude. Il est né d'elle, de la solitude. On peut déjà nommer le mot. Je crois que beaucoup de gens ne pourraient pas supporter ça que je dis là. Ils se sauveraient. C'est peut-être pour cette raison que chaque homme n'est pas un écrivain. Ouais. C'est ça la différence. C'est ça la vérité. Rien d'autre. Le doute, c'est écrire. Donc, c'est l'écrivain aussi. Et avec l'écrivain, tout le monde écrit. On l'a toujours su. Je crois aussi que dans ce doute premier du geste vers l'écriture, il n'y a pas de solitude. Personne n'a jamais écrit à deux voix. On a pu chanter à deux voix, faire de la musique aussi, et du tennis. Mais écrire, non, jamais. J'ai tout de suite fait des livres dits politiques. Le premier est Aban Sabana, David. Un de ceux qui m'est le plus cher. Je crois que c'est un détail, ça, qu'un livre soit plus ou moins difficile à mener que la vie ordinaire. Simplement, ça existe, la difficulté. Un livre est difficile à mener vers le lecteur, dans la direction de sa lecture. Si je n'avais pas écrit, je serais devenu une incurable de l'alcool. C'est un état pratique d'être perdu sans plus pouvoir écrire. C'est là qu'on boit. Du moment qu'on est perdu, et qu'on n'a donc plus rien à décrire, à perdre, on écrit. Tandis que le livre, il est là, et qu'il crie qu'il exige d'être terminé, on écrit, on est obligé de se mettre à son rang. C'est impossible de jeter un livre pour toujours avant qu'il ne soit tout à fait écrit. C'est-à-dire seul et libre de vous qui l'avez écrit. C'est aussi insupportable qu'un crime. Je ne crois pas que les gens qui disent « j'ai déchiré mon manuscrit, j'ai tout jeté », je n'y crois pas. Ou bien ça n'existait pas pour les autres, ce qui était écrit, ou bien ce n'était pas un livre. Et quand ce n'est pas un livre, on le sait toujours. Quand ce ne sera jamais un livre, non, on ne le sait pas. Jamais.
Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais, tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais, ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai. Que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.
En page, aujourd'hui, Marguerite Duras avec un des derniers écrits de Duras, écrire, où Marguerite Duras revient dans un entretien avec Benoît Jacquot sur l'écriture, sur le pourquoi d'écrire, sur le mystère de l'écriture, et ce pourquoi elle a écrit et où elle a écrit, bref, toute cette intériorité de Duras et toutes ces expressions à la fois magiques, mystérieuses, lucides, du Duras sublime, bien évidemment. Quand je me couchais, je me cachais le visage. J'avais peur de moi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que je buvais de l'alcool avant de dormir. Pour m'oublier, moi. Ça passe tout de suite dans le sang, et après on dort. C'est angoissant, la solitude alcoolique. Le cœur, oui, c'est ça. Ça bat très vite tout à coup. Tout écrivait quand j'écrivais dans la maison. L'écriture était partout. Et quand je voyais des amis, parfois, je les reconnaissais mal. Il y a eu plusieurs années comme ça, difficiles pour moi, oui. 10 ans peut-être ça a duré. Et quand des amis même, très chers, venaient me voir, c'était aussi terrible. Ils savaient rien de moi, les amis. Ils me voulaient du bien, et ils venaient par gentillesse, croyant bien faire. Et le plus étrange, c'était que je n'en pensais rien. Ça rend sauvage, l'écriture. On rejoint une sauvagerie d'avant la vie, et on la reconnaît toujours. C'est celle des forêts, celle ancienne comme le temps, celle de la peur de tout, distincte et inséparable de la vie même. On est acharné. On ne peut pas écrire sans la force du corps. Il faut être plus fort que soi pour aborder l'écriture. Il faut être plus fort que ce qu'on écrit. C'est une drôle de chose, oui. C'est pas seulement l'écriture, l'écrit. C'est l'écrit des bêtes de la nuit, ceux de tous, ceux de vous et de moi, ceux des chiens. C'est la vulgarité massive, désespérante de la société. La douleur, c'est Christ aussi, et Moïse, et les pharaons, et tous les juifs, et tous les enfants juifs. Et c'est aussi le plus violent du bonheur. Toujours, je crois ça. Cette maison, à Neufle-le-Château, je l'ai achetée avec les droits de cinéma de mon livre « Un barrage contre le Pacifique ». Elle m'appartenait, elle était à mon nom. Cet achat a précédé la folie de l'écriture, cette espèce de volcan. Je pense que cette maison y est pour beaucoup. Elle me consolait, la maison, de toutes mes peines d'enfant. En l'achetant, j'ai su très vite que j'avais fait quelque chose d'important pour moi et de définitif, et quelque chose pour moi seul et pour mon enfant. Cela pour la première fois de ma vie. Et je m'en occupais, et je la nettoyais. Je m'en suis beaucoup occupé. Après, quand j'ai été embarqué dans mes livres, je m'en suis occupé moins. Ça va très loin, l'écriture, jusqu'à en finir avec. C'est quelquefois intenable. Tout prend un sens, tout à coup, par rapport à l'écrit. C'est à devenir fou. Les gens qu'on connaît, on ne les connaît plus, et ceux qu'on ne connaît pas, on croit les avoir attendus. C'était sans doute simplement que j'étais déjà un peu plus que les autres gens, fatigué de vivre. C'était un état de douleur sans souffrance. Je ne cherchais pas à me protéger des autres gens, surtout des gens qui me connaissaient. Ce n'était pas triste, c'était désespéré. J'étais embarqué dans le travail le plus difficile de ma vie, mon amant de Lahore. Écrire sa vie, écrire le vice-consul. J'ai dû mettre 3 ans à le faire, ce livre-là. Je ne pouvais pas en parler parce que la moindre intrusion dans le livre, le moindre avis objectif aurait tout effacé de ce livre-là. Une autre écriture de moi corrigée aurait détruit l'écriture du livre et mon savoir à moi sur ce livre-là. Cette illusion qu'on a et qui est juste d'être le seul à avoir écrit et ce qu'on a écrit. Que ce soit nul ou merveilleux. Et quand je lisais des critiques, la plupart du temps, j'étais sensible au fait qu'on y disait que ça ne ressemblait à rien. C'est-à-dire que ça rejoignait la solitude initiale de l'auteur. Cette maison ici, à Neufle, je croyais l'avoir aussi achetée pour mes amis, les recevoir. Mais je me trompais. Je l'avais achetée pour moi. C'est maintenant seulement que je le sais, que je le dis. Certains soirs, il y avait beaucoup d'amis. Les Gallimard venaient souvent, et leurs femmes et leurs amis. Il y en avait beaucoup, des Gallimard, 15 peut-être, quelquefois. Je demandais qu'on vienne un peu avant pour mettre les tables dans une seule pièce afin qu'on soit ensemble. Ces soirées-là, que je dis, étaient pour tous très heureuses, les plus heureuses de toutes. Il y avait toujours Robert Anthelme et Dionis Mascolo et leurs amis. Et mes amants aussi, surtout Gérard Jarloux, qui était le séducteur même, et qui était devenu lui aussi un ami de Gallimard. Quand il y avait du monde, j'étais à la fois moins seul et plus abandonné. Cette solitude, pour l'aborder, il faut en passer par la nuit. Dans la nuit, imaginez Duras dans son lit en train de dormir seul dans une maison de 400 mètres carrés. Quand j'allais jusqu'au bout de la maison, là-bas, vers la petite maison, j'avais peur de l'espace comme d'un piège. Je peux dire que tous les soirs j'avais peur. Et pourtant, je n'ai jamais fait un geste pour que quelqu'un vienne habiter là. Quelquefois, le soir, je sortais tard. C'était des randonnées que j'aimais, avec des gens du village, des amis, des habitants de Neufle. On buvait, on parlait beaucoup. On allait dans une sorte de cafétéria grande comme un village de plusieurs hectares. C'était comble à 3 heures du matin. Le nom me revient, c'était Parly 2. Ce sont des lieux où on était perdus aussi. Là, les garçons surveillaient comme des flics cette espèce d'immense territoire de notre solitude. Ce n'est pas une maison de campagne ici, cette maison. On ne peut pas dire ça. C'était une ferme d'abord avec l'étang. Et puis, ça a été la maison de campagne d'un notaire, le grand notariat parisien. Quand on m'a ouvert la porte d'entrée, j'ai vu le parc. Ça durait quelques secondes. J'ai dit oui, que j'achetais la maison. Dès l'entrée franchie, je l'ai achetée, séance tenante, j'ai payé de même en espèces. Maintenant, elle est devenue une maison de toutes les saisons. Et je l'ai aussi donnée à mon fils. Elle est à nous deux. Il est aussi attaché à elle qu'à moi. Maintenant, je le crois. Il a tout gardé de moi dans cette maison. Je peux encore y être seul. J'ai ma table, mon lit, mon téléphone, mes tableaux, mes livres et les scénarios de mes films. Et quand je vais dans cette maison, mon fils en est très heureux. Ce bonheur-là de mon fils, c'est celui de ma vie maintenant. C'est curieux, un écrivain. C'est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire. C'est hurler son bruit. C'est reposant, un écrivain, souvent. Ça écoute beaucoup. Ça ne parle pas beaucoup parce que c'est impossible de parler à quelqu'un d'un livre qu'on a écrit et surtout d'un livre qu'on est en train d'écrire. C'est impossible. C'est à l'opposé du cinéma, à l'opposé du théâtre et autres spectacles. C'est à l'opposé de toutes les lectures. C'est le plus difficile de tout. C'est le pire. Parce qu'un livre, c'est l'inconnu, c'est la nuit, c'est clos, c'est ça. C'est le livre qui avance, qui grandit, qui avance dans les directions qu'on croyait avoir explorées, qui avance vers sa propre destinée et celle de son auteur, alors anéanti par sa publication, sa séparation d'avec lui, le livre rêvé, comme l'enfant dernier-né, toujours le plus aimé. Un livre ouvert, c'est aussi la nuit. Je ne sais pas pourquoi ces mots que je viens de dire me font pleurer. Écrire, quand même malgré le désespoir. Non, avec le désespoir. Quel désespoir, je ne sais pas le nom de celui-là. Écrire à côté de ce qui précède l'écrit, c'est toujours le gâcher. Il faut cependant accepter ça. Gâcher le ratage, c'est revenir vers un autre livre, vers un autre possible de ce même livre.
C'est un peu bancal, ce n'est pas bien rangé, je sais. Rien de bien original, le piano est accordé, aux fenêtres un ciel, des étoiles, je m'évade. Passionnément que je prie. Indécis, décidé, en dessous, j'en ai tant m'écrit, je voulais t'aider. C'est d'ici, de ce nid, d'ici que je vous écris. Si tu veux visiter, on en fait vite le tour. J'aime cette lumière, l'été. Des machines bizarres, des cahiers bleus raturés. Là, c'était ma première guitare. Tu vois, c'est ici de ce nid que je vous dis ma vie. Passionnément que je prie. Indécis, décidé, mon décis, j'en ai tant m'écrit, je voulais t'aider. C'est ici, de ce nid, d'ici que je vous écris.
d'ici que je vous écris.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission mise en page autour de Écrire de Marguerite Duras. Écrire est un livre donc publié chez Gallimard en 93, mais avant tout c'est un film qu'avait voulu Benoît Jacquot, je vous l'ai dit, et consiste en un entretien que Marguerite Duras a donné à Benoît Jacquot et à toute l'équipe du film. Et c'est un long entretien, voilà, sur l'écriture, un moment pris comme ça, tout naturel et profond, bien sûr. Les musiques que vous avez pu entendre sont en partie des musiques, soit des textes de Duras, soit des musiques de films de Duras, interprétées par ses amis et ceux qui l'ont aimé. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau volet de mise en page, avec de nouveaux horaires sur Radio Vassivière, vous le savez, puisque on se retrouve comme d'habitude les mardis à partir de 19h, mais le week-end ça a changé, ce n'est plus le dimanche que nous nous retrouvons, mais bien le samedi autour de midi. À bientôt sur vos radios limousines associatives préférées, Radio Vassivière bien sûr, mais aussi RTF Limoges, RPG Guéret, et puis sur internet bien sûr, un peu partout dans le monde, grâce à cet outil magique qui est internet. Vous allez sur le site de Radio Vassivière et là vous trouvez toutes les émissions de mise en page. Salut à tous, merci à Kevin qui m'aide à monter ses émissions pour l'instant, tant que Didier se repose, qu'il en profite, il a raison et on l'embrasse. Salut. Thank you.